The Sangha is invited to come back to our breathing so that our collective energy of mindfulness will bring us together as an organism, going as a river with no more separation. Let the whole Sangha breathe as one body, chant as one body, listen as one body, and transcend the boundaries of a delusive self, liberating from the superiority complex, the inferiority complex, and the equality complex.
các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa. Nam mô Đa Ma Ya. Về nương tăng trong con, xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chung.
Chers Sangha, nous sommes le 9 janvier l'an 2014. Nous sommes dans la salle de méditation, l'eau tranquille du hameau du haut, pendant la retraite d'hiver, l'an 2013-2014. Vous m'entendez bien ? Ce matin, Frère Fatuin a chanté en anglais. Du corps du Dharma rayonne la lumière du matin. Et en anglais, Sir Chung Duc a traduit comme The Dharma body is bringing light, is bringing morning light. Ce n'est pas la traduction mot à mot, mais ça va. Et en vietnamien, l'original c'est Du corps du Dharma rayonne la lumière du matin. La signification est tôt le matin, notre corps du Dharma illumine. Il faut traduire the Dharma body shines brilliantly in the morning. Le corps du Dharma rayonne tôt le matin. Mais la traduction de Sok Chung Duk est bonne aussi, c'est pour ça Thaï l'a laissé. Premièrement, il faut comprendre ce que c'est le corps du Dharma qui rayonne tôt le matin. Qu'est-ce que c'est qui apporte la lumière du matin? Le corps du Dharma en sanskrit, c'est Dharmakaya. En chinois, c'est Pháp Thân. Dhammakaya a son origine depuis le temps du Bouddha. Une fois, le Bouddha rendait visite à un disciple très malade, un disciple mourant qui s'appelait Vaigali. Et le Bouddha lui a demandé, « Est-ce que tu regrettes quelque chose, Vaigali ?»« Non, cher Bouddha, je ne regrette rien. Une seule fois que je regrette, c'est comme je suis tellement malade, je ne peux pas aller au pic des vautours tous les jours pour vous contempler, pour contempler votre beauté. » Pour vous voir, le Bouddha lui a répondu, « Cher frère, mon corps physique n'a rien à voir. Vous avez déjà mon corps du Dharma, vous n'avez plus besoin de mon corps physique. Vous avez déjà mon corps du Dharma, vous n'avez pas besoin de mon corps physique. » C'est pour ça, même au temps du Bouddha, il y avait deux mots, corps physique et corps du Dharma. Le corps physique du Bouddha peut se décomposer, mais son corps du Dharma reste pour toujours. Quand nous avons le corps du Dharma, nous n'avons plus besoin de nous attacher au corps physique, n'est-ce pas? Autrefois, c'est ça la signification du corps du Dharma. C'est le corps d'enseignement. C'est-à-dire, le corps d'enseignement. Et le Bouddha l'a transmis à ses disciples. Chacun de ses disciples à son corps du Dharma. Nous savons que le Dharma a deux sortes de Dharma. La première sorte, c'est le Dharma vivant. Et la deuxième, c'est le Dharma écrit, enregistré. Il y a des CD dans lesquels on entend le Dharma, c'est le Dharma parlé, prononcé. Par exemple, cet enseignement, c'est l'enseignement prononcé. Il y a des livres appelés le Dharma enseigné, mais ce Dharma n'est pas aussi beau que le Dharma vivant. C'est-à-dire chaque fois que nous respirons en pleine conscience, c'est le Dharma vivant. Chaque fois que nous pratiquons la marche méditative, et à chaque pas nous avons la paix, la joie, alors c'est ce qu'on appelle le Dharma vivant, ou bien le Dharmakaya, le corps du Dharma. Et le mot Dharmakaya a une deuxième signification qui est notre propre pratique. En chacun, chacune de nous, il y a un corps physique. Et si nous sommes disciples du Bouddha, si nous pratiquons selon ses enseignements, nous avons aussi un deuxième corps, le corps du Dharma. Nous avons notre propre corps du Dharma et c'est notre propre pratique. Votre corps de pratique. Corps du Dharma signifie également corps de pratique. Et si votre corps de pratique est solide, vous avez beaucoup de bonheur. Vous pouvez gérer votre souffrance. Vous êtes capable de produire la joie et le bonheur. Alors ça dépend de votre corps du Dharma, s'il est solide ou non. Alors, le matin, quand nous allons à la méditation assise, il faut faire rayonner notre corps du Dharma, parce que au réveil, en principe, nous nous sentons bien, nous avons la bonne santé, et notre corps du Dharma rayonne. Et pour les étudiants, le meilleur moment d'étudier, c'est tôt le matin. Et quand nous sommes à la fin de la journée, nous sommes plus fatigués et nous ne pouvons plus étudier. C'est pour ça, tôt le matin, dès qu'on se réveille, dès qu'on se lève, on pratique. Alors c'est très bien. Et ma pratique est solide. Ma pratique est forte le matin. Ma pratique brille le matin. C'est ça la signification. Alors chacun, chacune de nous, nous avons un corps physique, nous avons un corps du Dharma, et tous les jours, il faut nourrir notre corps du Dharma. Est-ce que votre corps du Dharma est solide ou bien il est tout frêle, tout fragile? Si votre corps du Dharma, si votre pratique est faible, ça ne suffit pas pour vous rendre solide, pour vous apporter la joie et le bonheur. Et si votre corps du Dharma est faible, vous ne pouvez pas, vous êtes incapable de gérer votre souffrance et vous ne pouvez pas aider les autres à gérer leur souffrance. C'est pour ça, en tant que pratiquant, il faut nourrir notre corps du Dharma pour qu'il grandisse tous les jours. Nous savons qu'en hiver, les arbres grandissent, les arbres poussent très lentement, mais au printemps, ils poussent très vite. Parfois, après une nuit, ils poussent une dizaine de centimètres, surtout les bambous. Juste après une nuit, on voit les pousses de bambous pousser de 20 centimètres. C'est pour ça, en anglais, on dit printemps comme spring. Spring, ça veut dire surgir. Alors, il faut faire en sorte que notre corps du Dharma grandisse comme ça, même en hiver. Et les moines, les moniales, les pratiquants laïcs, hein, demandez-vous si votre corps du Dharma grandit tous les jours. Taïf voit que mon corps grandit tous les jours parce que j'améliore quand je m'assois, quand je fais la marche méditative, quand je travaille. Il faut que notre corps du Dharma grandisse tous les jours. Et tôt le matin, nous avons la chance de laisser notre corps du Dharma grandir pendant la méditation assise. Nous nous asseyons de manière que notre corps du Dharma grandisse, que nous ayons plus de paix, de joie et de bonheur. Par exemple, quand nous faisons la marche méditative, quand nous mangeons, quand nous faisons la vaisselle, nous pouvons laisser notre corps du Dharma grandir. Si nous ne nourrissons pas notre corps du Dharma, si nous ne, si nous ne consolidons pas notre corps de Dharma, il va s'affaiblir. Il a besoin aussi des conditions pour grandir. Dans la biologie, on parle aussi des conditions. L'étude et la pratique, on comprend ces deux mots sous la lumière de conditions. Opening condition en anglais. Pardon. Non, c'est operant condition. Condition opérant. Condition opérante. Il faut agir, il faut mettre de soi-même pour que ça grandisse. Il faut faire quelque chose. Il faut être acteur. Par exemple, quand nous entendons un son de la cloche, le son de la cloche est quelque chose qui se produit, qui arrive. Pour ceux qui ne pratiquent pas, le son de la cloche ne signifie rien. C'est un son comme tous les autres sons, comme tous les autres bruits. Mais pour les pratiquants au village des pruniers, le son de la cloche est très différent. Nous avons l'habitude, nous avons une réaction, un réflexe chaque fois qu'on entend le son de la cloche. Et ce réflexe est d'arrêter de penser tout de suite, sans faire d'effort. Personne nous dit d'arrêter de penser, mais naturellement nous arrêtons de penser. Et nous nous taisons. Nous sommes en train de parler et dès qu'on entend le son de la cloche, on se tait. Au début, on n'arrive pas encore à faire ça, même au son de la cloche. Si quelqu'un nous rappelle, alors on s'arrête. On arrête de penser et puis on retourne à sa respiration consciente. Mais comme on reste au village depuis quelques semaines, 2 ou 3 semaines, alors nous sommes conditionnés. Conditioning. Les autres dans la sangha, dans la communauté, font la même chose. Dès qu'on entend le carillon de la cloche, tout le monde s'arrête. Tout le monde arrête de mâcher, de manger. Tout le monde retourne au moment présent pour voir clairement qu'on est encore vivant, qu'on respire. Au début, on est un peu surpris. Surtout quand on vient ici pour la première fois, quand on entend le carillon et on voit que tout le monde s'arrêtait. On est un peu surpris, mais petit à petit, ça devient une habitude. Et quand on entend le carillon de la cloche, on s'arrête. Et on n'a pas besoin d'autres conditions, comme les autres personnes, quelqu'un qui nous rappelle. Au début, c'est un réflexe. Alors les sons de la cloche, ou bien l'image de quelqu'un qui fait la marche méditative, ce sont des conditions qui nous aident à revenir à nous-mêmes pour pratiquer. Mmh. mais petit à petit, ça devient une habitude et on a plus besoin de quelqu'un qui nous rappelle et on continue à pratiquer. Si on cesse de pratiquer cette habitude, s'affaiblit petit à petit jusqu'à un moment où on entend le son de la cloche et puis on s'arrête plus. C'est pour ça la pratique régulière est une condition, est quelque chose qui consolide, qui renforce. Alors, pour grandir, pour développer notre corps du Dharma, il faut la consolidification ou quelque chose qui renforce. C'est pour ça que quand nous sommes loin de la Sangha, nous avons peu d'opportunités de renforcer notre pratique et c'est pour ça au bout de quelques mois, notre corps du Dharma devient tout faible et nous abandonnons la pratique. Et quand il n'y a plus ces conditions, par exemple, il n'y a plus de son de cloche, plus de sangha, et nous continuons quand même à progresser sur le chemin de la pratique, comme nous avons besoin de la joie, du bonheur, nous avons besoin de gérer notre souffrance, nous sommes déterminés à pratiquer même s'il n'y a personne qui nous encourage. Et c'est ça, operant conditioning, c'est-à-dire nous faisons nous-mêmes, nous renforçons nous-mêmes. C'est la deuxième signification du mot corps du Dharma. Et plus tard, dans le Mahayana, le mot corps du Dharma a une toute autre signification. Il signifie merveille du cosmos, comme les fleurs jaunes, les bambous violets, le nuage argenté, les oiseaux, le chant des oiseaux, le murmure des pins. Et le corps du Dharma se manifeste en merveille dans le cosmos quand on regarde une feuille, une fleur, un nuage, un ruisseau, ou les yeux, ou le système nerveux. Nous voyons que tout ça, ce sont des merveilles. Et toutes ces merveilles sont en train d'enseigner l'impermanence, le non-soi, les quatre nobles vérités, le chemin octuple. C'est pour ça, en regardant une rose, en l'écoutant, nous voyons que la rose enseigne le Dharma. C'est pour ça, la rose est un corps du Dharma. Quand on écoute un oiseau chanter, nous voyons que l'oiseau enseigne le Dharma. Tout enseigne le Dharma, tout enseigne l'impermanence, le non-soi, les quatre nobles vérités, le noble chemin octuple, et donc tout est corps du Dharma. Et le corps du Dharma du Bouddha est toujours là, et le Bouddha n'a jamais cessé d'enseigner. Et c'est ça la signification, la dernière signification du corps du Dharma dans le Mahayana. C'est pour ça, tous les maîtres zen sont devenus poètes. Ils écrivaient tous des poèmes, ils peignaient, parce que le corps du Dharma est une source d'inspiration dans la poésie. C'est pour ça, dans le zen, nous voyons clairement que les pratiquants deviennent tous artistes, parce que le corps du Dharma se manifeste. Dans le corps du Dharma, il y a toute la beauté du cosmos. Ce sont les significations du mot « corps du Dharma ». Alors, le corps du Dharma est d'abord les enseignements du Bouddha. Ensuite, il signifie notre propre pratique. Et finalement, il signifie les merveilles du cosmos qui nous enseigne, si nous avons les oreilles, nous continuons à écouter les enseignements du Bouddha à travers une rose, une feuille. C'est extraordinaire. Alors notre pratique peut se résumer comment faire pour produire la joie. Le bonheur, la paix, au moins ces trois éléments. Nous les produisons pour nous-mêmes en premier, et quand nous avons la joie, le bonheur et la paix, nous pouvons aider les autres à faire de même. Quand nous sommes capables de faire ça, nous pouvons aider les autres à faire de même. Et quand nous avons une sangha, avec des personnes qui sont capables de produire la joie, le bonheur, la paix, nous pouvons aider beaucoup de personnes. Et c'est le fond d'une sangha. Il faut voir la quantité de joie, de bonheur et de paix dans cette sangha. En regardant une famille, nous pouvons évaluer cette famille par la qualité, par la quantité de joie, de paix et de bonheur de cette famille. Et dans une classe ou dans une communauté, dans le parlement par exemple, ou dans une école ou dans un hôpital, ou dans une compagnie, c'est pareil. S'il y a la joie, le bonheur et la paix dans cette famille, dans cette organisation, dans cette communauté, alors ils peuvent aider le monde. Et premièrement, il faut apprendre à produire la joie, le bonheur et la paix avec notre corps du Dharma. Et puis, ensuite, nous pourrons aider notre famille, nos proches et notre société. Et ce corps du Dharma, cette pratique, doit être capable de gérer notre souffrance. Premièrement, les sensations douloureuses, les sensations de souffrance, les émotions douloureuses. Premièrement, il faut être capable de les gérer. C'est très concret. Et quand vous venez au village des pruniers, il faut apprendre à faire tout ça. Et si vous êtes de bons pratiquants, vous pouvez apprendre tout ça en une seule journée. Vous apprenez la pratique, pas dans des cours ou dans des classes, mais vous pratiquez dans la pratique, parce que chaque pas, à chaque respiration, vous pouvez produire la joie, le bonheur et la paix. Si vous avez beaucoup de détermination, votre corps du Dharma grandit très vite, au printemps comme en hiver, tous les jours. En France, on dit « silence, ça pousse ». dans les sutras, il est dit, les sutras nous parlent, dans les sutras nous avons l'enseignement, nous avons appris dans les sutras comment produire la joie, la paix, le bonheur. Ces trois éléments, nous en tant que pratiquants, nous devons être capables de produire ces trois éléments. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous ne sommes pas vraiment pratiquants. Nous ne sommes pas de bons pratiquants. Et nous n'avons pas encore un corps du Dharma solide. Et là, la technique de produire ces trois éléments dans les sutras, c'est très clair. Il est dit clairement qu'il faut lâcher prise. C'est la première technique. Lâcher prise. Le lâcher prise peut nous apporter la joie, le bonheur et la paix. C'est étrange. En chinois, c'est li. Lâchez. Lâchez derrière vous. Le lâcher prise mène à la joie et le bonheur. Hi en chinois signifie joie et la signifie bonheur. Et ces deux éléments peuvent naître à partir du lâcher prise. Avec la pratique du lâcher prise, vous pouvez faire naître la joie et le bonheur. Cette phrase se trouve partout dans les sutras. Si vous n'avez pas la joie et le bonheur, c'est parce que vous n'êtes pas capable de lâcher prise. Vous vous attachez, vous vous agrippez. Mais si vous arrivez à relâcher, à lâcher prise, vous aurez la joie et le bonheur. C'est parce que vous n'avez pas le courage de lâcher. Par exemple, nous vivons à Los Angeles. Nous sommes tellement occupés. Nous savons que dans cette ville, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de poussière. Et nous voulons quitter cette ville le week-end pour aller à la campagne. C'est comme quelqu'un qui veut toujours aller au village des pruniers, mais qui n'arrive jamais. C'est parce qu'il n'arrive pas à lâcher prise. Il y en a qui n'arrivent pas à quitter Paris, même s'il y a plein de bruit à Paris. Et rarement ils voient le clair de lune, les étoiles. Alors un jour, un ami vient. Viens demain, vendredi après-midi, nous allons sortir, je vais vous amener à la campagne. Et cet ami a persuadé cette personne, et puis la personne est d'accord. Et le moment quand il monte dans la voiture, trois quarts d'heure après, il commence à voir le paysage, la nature, les champs, et tout est si frais, si beau, et on ressent de la joie. Et d'où vient cette joie? Elle vient du fait qu'on a lâché derrière la ville. Et si vous arrivez au village des pruniers, vous êtes assis là, c'est parce que vous avez pu lâcher prise, vous avez pu lâcher votre vie quotidienne. Il y en a qui essaient année après année et qui n'arrivent jamais, qui n'arrive jamais à organiser pour venir ici. Et nous, nous sommes là, c'est parce que nous sommes capables de lâcher prise. Il faut nous asseoir tranquillement et noter sur une feuille de papier tout ce qu'il y a à lâcher prise, tout ce qu'il y a à lâcher, à relâcher. Premièrement, nos idées concernant le bonheur. C'est quelque chose de très difficile à lâcher. Nous tous, nous avons des concepts du bonheur, des idées sur le bonheur. Nous pensons qu'il faut ceci, cela, il faut éliminer ceci, cela pour être heureux. Nous avons des idées sur le bonheur. Il faut cette position, il faut cette maison, cette voiture, cette personne. Et nous avons des conditions comme ça. Alors, les communistes croient que seul le marxisme apporte le bonheur au peuple. Ils ont une idée sur le bonheur. Et les capitalistes croient que le marché apporte le bonheur. Chacun, chacune a des idées sur le bonheur. Et parfois, on n'arrive pas à lâcher ces idées. C'est pour ça qu'il faut nous asseoir pour examiner nos idées sur le bonheur. Et si nous ne sommes pas heureux, probablement parce que nous n'avons jamais réussi à lâcher nos idées sur le bonheur. Les exemples dans les sutras, c'est l'histoire de lâcher les vaches. Un jour, le Bouddha était assis avec ses moines dans la forêt après avoir mendié la nourriture, et ils allaient prendre leur repas, et un fermier est passé paniqué. « Cher moine, est-ce que vous avez vu mes vaches passer par là ? Sans ces vaches, comment je vais survivre ? Peut-être je vais me suicider. » Et il a continué à se plaindre au Bouddha. Vous savez, j'ai des hectares de sésame et je ne sais pas ce qui s'est passé. Les insectes ont tout mangé, il ne reste plus rien. Je n'ai rien récolté. Comment je vais survivre? Je n'ai pas de sésame ni vache, hein, ni sésame ni vache. Je vais me suicider. Le Bouddha lui a dit, Monsieur, nous sommes assis là depuis une demi-heure, mais on n'a vu aucune vache passer. Il faut aller chercher dans l'autre direction. Le fermier est parti et le Bouddha s'est tourné vers les moines. Cher moine, vous savez que vous avez beaucoup de chance. Vous n'avez aucune vache à perdre. Vous n'avez aucune vache et donc vous n'avez pas peur de la perdre. Et le but de l'histoire, c'est que si on a des vaches, il faut les lâcher. Nos idées sur le bonheur est une vache. Et c'est justement à cause de ces idées, nous ne sommes pas heureux. Comme l'Union soviétique, pendant 70 ans, ils ont cru que seul le marxisme peut apporter, apporter la richesse et la puissance au pays. Et ces personnes se sont attachées à ces idées pendant 70 ans. Et toutes les personnes qui s'opposaient à cette idéologie étaient tuées. Alors, cette idéologie était une des vaches qui n'arrivait pas à lâcher. C'est pour ça, chacune de nous, nous devrions nous asseoir. C'est ça la pratique. Il faut avoir le temps de nous asseoir et nous allons noter, nous allons appeler par leur vrai nom toutes nos vaches, y compris nos idées, nos concepts. Nous y attachons et puis nous souffrons. Maintenant, il suffit de les lâcher. Combien de vaches avons-nous? Asseyons-nous. Réfléchissons. Notons tous leurs noms. Parfois, une page ne suffit pas parce qu'on en a tellement. Et la vérité, c'est que si vous lâchez vos vaches, vous serez très léger. Si vous en lâchez une, vous êtes léger. Si vous en lâchez deux, vous serez encore plus léger. Au temps du Bouddha, il y avait un gouverneur qui est devenu moine. Comme il voyait le Bouddha et sa sangha qui l'inspirait beaucoup, et une nuit pendant la méditation assise, il était tellement heureux, il a lâché toutes ses vaches pour devenir moine. Pendant cette méditation assise, il s'est exclamé: oh mon bonheur, oh mon bonheur. Un autre moine s'asseyait près de lui et il pensait: peut-être il regrette le temps quand il était encore gouverneur. Quand il était gouverneur, il avait beaucoup d'argent, beaucoup de serviteurs, il avait tout, et maintenant en tant que moine il n'a plus rien. Peut-être il regrette. Alors ce moine a rapporté au Bouddha: cher Bouddha, hier soir j'ai entendu Badiya, mon grand frère, tout à coup il s'est exclamé: oh mon bonheur, deux fois. Je ne sais pas à quoi il pense, peut-être il regrette. Et le Bouddha sait que ce moine a sa perception fausse, mais il a appelé quand même Badiya, et devant toute la communauté, il l'a demandé: cher Badiya, est-ce que hier soir, pendant la méditation assise, tu t'es exclamé: oh mon bonheur, oh mon bonheur? Oui, cher Bouddha. Oui, cher Bouddha, hier soir, j'ai dit ça pendant la méditation assise. Pourquoi, Badiya, pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Et le moine a dit: cher Bouddha, quand j'étais encore gouverneur, j'avais tout. J'avais les soldats, j'avais un titre, j'avais beaucoup de serviteurs, j'avais beaucoup d'argent, mais toujours je vivais dans la peur. J'avais peur que les autres m'assassinent, me volent tous mes biens. C'est pour ça même j'avais plein de soldats, plein de gardes, mais je n'étais pas du tout en sécurité. Je ne me sentais pas du tout en sécurité. Et maintenant, en tant que moine, j'ai tout lâché, j'ai tout relâché, j'ai lâché mon titre et assis dans la méditation, je ressentais vraiment ma liberté. Personne n'a envie de me tuer. J'ai tout lâché, je suis en sécurité. Et j'étais tellement heureuse, c'est pour ça que j'ai dit « oh mon bonheur » deux fois. Et les autres moines ont compris que le bonheur de Baliya n'est pas d'accumuler plus d'argent, plus de biens, mais son bonheur est basé sur sa liberté. C'est pour ça que le lâcher-prise est la première technique. La première technique de produire la joie, le bonheur et la paix. Peut-être vous vous dites, moi je veux lâcher prise, mais de quoi? Alors il faut premièrement reconnaître vos vaches. C'est pour ça qu'il faut vous asseoir, il faut noter le nom de toutes vos vaches. Et la vérité, c'est que si vous arrivez à lâcher une vache, alors votre bonheur augmente. C'est ça la signification de la phrase. Le lâcher prise fait naître la joie, le bonheur, la paix. Le moine Baliya a beaucoup de paix. C'est pour ça qu'il a beaucoup de joie et de bonheur. C'est pour ça quand vous faites moine émonial, il y en a qui vous disent qu'est-ce que tu es bête, pourquoi tu te fais moine? Mais ce n'est pas ça. Vous êtes très intelligent parce que vous apprenez à lâcher prise, parce que plus vous lâchez prise, plus vous avez la joie et le bonheur. Vous n'avez plus peur. Et dans les sutras, on parle aussi de la concentration. La concentration fait naître la joie et le bonheur. Parce que quand vous avez la concentration, quand vous avez la méditation, vous avez beaucoup de paix, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. La concentration, c'est-à-dire le zen. Dans la concentration, dans le zen, il y a la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. Et quand vous avez ces trois énergies, vous pouvez produire la joie, le bonheur et la paix. Avec ces trois énergies, vous pouvez produire la paix dans votre corps physique. Vous pouvez relâcher toute la tension dans votre corps. Vous pouvez réduire la douleur dans votre corps physique. C'est la méditation et la concentration qui vous aident à faire ça. Si vous savez comment respirer en pleine conscience, marcher, vous asseoir, travailler en pleine conscience, vous pouvez lâcher beaucoup de tension. Vous pouvez relâcher beaucoup de tension également dans vos sensations, dans votre esprit, dans vos émotions. Et vous pouvez produire la joie, le bonheur. C'est pour ça. Le lâcher prise fait naître la joie, le bonheur et la paix. Et c'est pareil pour la concentration, le samadhi. C'est l'art de la méditation. Et dans le zen, dans la tradition zen, on parle souvent de la méditation comme nourriture quotidienne, la joie de la méditation comme nourriture quotidienne. Ce mot yuir signifie joie. Joie de méditation, joie procurée par la méditation comme nourriture quotidienne. La joie de méditation vous nourrit avec la joie et le bonheur. Et c'est ça, les pratiquants sont nourris par la joie de méditation et pas par la popularité, la renommée. Si vous avez une pratique solide, un corps du dharma solide, vous pouvez vous nourrir et vous pouvez nourrir vos bien-aimés. Et bien sûr, dans cette concentration, il y a la pleine conscience. Au village des Pruniers, nous avons appris que la pleine conscience est la source de la joie. La pleine conscience est la source du bonheur, de la paix. Et ici, ce ne sont pas seulement les paroles, les mots. Avec l'énergie de la pleine conscience, c'est très facile de produire l'énergie de la joie et du bonheur. Par exemple, quand j'étais debout sur cette estrade et je faisais des mouvements de pleine conscience, je ne les faisais pas pour être en bonne santé, mais je les faisais pour avoir la joie et le bonheur. Quand je faisais ces mouvements n'étaient pas les moyens pour arriver à un but, mais tous ces mouvements étaient le but lui-même, c'est-à-dire d'avoir la joie et le bonheur. Au village des Pruniers, nous devrions apprendre à faire ça. Tout ce que nous faisons, méditation assise, méditation marchée, chant, ça ne vise pas au bonheur, mais toutes ces activités sont le bonheur. Ce ne sont pas les moyens pour arriver au bonheur, à la paix, mais ces activités sont le bonheur et la paix même. Quand j'étais debout, comme ça, et je soulevais mes bras, ne croyez pas que je soulevais seulement mes bras, je soulevais en même temps ma pleine conscience. Je voyais clairement que les moines de ma génération, les moines qui allaient à l'institut bouddhique avec moi, beaucoup d'entre eux sont déjà morts et quelques-uns restent encore vivants mais qui reste sur une chaise roulante. Et moi, je peux faire ces mouvements. Et c'est pour ça, en faisant ces mouvements, je suis très heureux. Et c'est ça, la pleine conscience. Ça signifie se souvenir. Et pendant, en faisant cela, j'ai la joie et le bonheur parce que j'ai la pleine conscience, la mémoire, pleine conscience, se souvenir. Maître Menchao est un grand vénérable maître à Paris. Il n'est plus là, il est déjà mort. Le grand vénérable Tante, mon ami très proche à moi, maintenant quand il marche, il faut deux personnes à côté de lui pour l'amener. Et moi je peux marcher moi-même, c'est pour ça. À chaque pas je suis heureux. C'est parce que je m'en souviens. Et c'est ça, la pleine conscience. Et pour respirer dans le bonheur, il me suffit de me souvenir de quelque chose. Par exemple, il y a quelques années, J'étais très malade avec mes poumons. J'avais le pseudomonas. Ces microbes rendaient mes poumons très malades et dans mon crachat il y avait du sang. Et chaque fois que j'y pense, je suis heureux parce que maintenant je ne l'ai plus. Et après le traitement, à cette époque, je toussais et je crachais du sang. Et maintenant, il suffit de me souvenir de cette période quand j'avais cette inflammation, quand j'avais cette maladie. Et tout de suite, je me réjouis beaucoup de mon inspiration et de mon expiration. Chaque respiration apporte beaucoup de confort, de bonheur, et ce n'est pas difficile. Il suffit d'un peu de pleine conscience. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont là, dans cette salle, et qui arrivent à courir, sauter, marcher. Et si vous n'êtes pas heureux et vous attendez jusqu'à ce que vous soyez bien âgé, que vous ne pouvez plus sauter, courir, alors ce serait dommage. Nous avons deux yeux clairs, nous avons des poumons en bonne santé et nous pouvons nous réjouir de nos yeux, de nos poumons. Si vous n'êtes pas heureux, si vous n'avez pas la joie et le bonheur, c'est à cause de vous. Parce que vous n'avez pas la pleine conscience. Si vous avez la pleine conscience, avec ces deux yeux, avec ces deux poumons, en bonne santé, avec ces jambes fortes, vous pouvez avoir la joie, le bonheur, la paix toute la journée. Ça dépend de vous. C'est à vous de voir. Il faut nous rappeler. Et nos amis de pratique peuvent nous rappeler pour qu'on ait la pleine conscience. Et dès qu'on a la pleine conscience, on a la joie, le bonheur. Alors, le lâcher-prise fait naître la joie, le bonheur, la paix, la concentration, la pleine conscience font la même chose. Et puis la vision profonde aussi. Ça fait naître aussi la joie, le bonheur et la paix. Nous avons des visions. Nous tous, il nous arrive d'avoir des visions profondes. Nous savons que ça ne vaut pas la peine de poursuivre ceci, cela. Ça ne vaut la peine. Ça ne vaut pas la peine de nous laisser emporter par ça. Nous sommes intelligents. Nous avons la vision profonde. Toutes ces choses ne sont pas importantes. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne sert à rien de perdre notre temps, de lutter. Et pourtant, nous perdons notre temps, nous luttons, parce que nous oublions notre vision profonde. Nous tous, nous avons la vision profonde, mais nous ne savons pas l'utiliser. Avec la vision profonde, nous pouvons lâcher prise très rapidement. Si vous n'avez pas lâché prise, parce que vous n'utilisez pas votre vision profonde. Vous savez que si vous y attachez, vous souffrez. Et pourtant, vous attachez quand même à cela. Le poisson sait que dans cet appât, il y a un hameçon. Le poisson a aussi sa vision profonde. Et il ne mord pas à cet appât. Il sait que s'il le mord, il va être accroché. Nous avons la vision profonde, mais nous n'utilisons pas notre vision profonde et nous nous laissons accrocher, attraper. Nous nous laissons pris dans cette situation, dans cette circonstance. Nous nous laissons nous attacher à ces choses. Nous tous, nous avons la vision profonde, plus ou moins, mais nous avons tous la vision profonde. Et plus nous pratiquons, plus nous avons la pleine conscience et la concentration, ou la vision profonde, nous avons les sœurs qui portent le nom Tuệ Nghiêm Định Nghiêm, c'est-à-dire décoration avec la vision profonde, décoration avec la concentration. Alors nous avons tous la vision profonde, mais nous ne l'utilisons pas et nous nous laissons pris dans des situations très difficiles. C'est pour ça qu'il faut savoir utiliser les éléments que nous avons pour produire la joie, le bonheur, la paix. C'est très clair, le lâcher prise, la concentration, la pleine conscience et la vision profonde. Et les enseignements sont très clairs dans les sutras. Il faut apprendre. Il faut savoir utiliser notre vision profonde, qu'on soit rappelé ou non, nous pouvons le faire. Et quand nous produisons ces éléments avec, quand nous produisons la joie, le bonheur, la paix, avec ces quatre éléments, nous pouvons gérer notre souffrance. Notre souffrance n'est pas si grande. Et si nous ne savons pas comment la gérer, c'est parce que nous croyons qu'elle est immense, en réalité, elle n'est pas si grande, notre souffrance. Et la technique que nous avons appris dans les sutras, c'est quand il y a une souffrance, la plupart d'entre nous, nous ne savons pas comment la gérer. Nous cherchons à la fuir. Nous cherchons à consommer pour l'oublier. Nous cherchons à l'oublier par la consommation. Nous allumons la télé, nous ouvrons un livre pour lire. Nous téléphonons à quelqu'un. Nous faisons tout pour oublier notre souffrance. C'est la fuite. Et la plupart d'entre nous, dans notre société, ils ne savent pas gérer leur souffrance. Ils la fuient. C'est pour ça que cette souffrance est masquée, est couverte, et elle continue à se développer. La plupart des gens dans la société ne savent pas gérer leur souffrance. Tout ce qu'ils font, c'est de la masquer, de la couvrir, et cette souffrance continue à grandir jusqu'à ce qu'elle s'explose. Et pourtant, le Bouddha enseigne clairement dans les sutras que nous pouvons gérer notre souffrance avec ces quatre éléments, le lâcher prise, concentration, pleine conscience et vision profonde. La souffrance est une énergie Et la vision profonde est une autre énergie. Nous utilisons l'énergie de la vision profonde pour reconnaître notre souffrance et l'embrasser. Et nous pouvons la calmer en faisant cela, comme une maman qui embrasse son bébé tendrement. Et le bébé souffre moins. Nous apprenons à reconnaître et embrasser notre souffrance avec la pleine conscience, la vision profonde pour calmer notre souffrance. C'est le premier pas. Et le deuxième pas, c'est de regarder profondément pour comprendre et transformer notre souffrance en quelque chose de plus positif. Par exemple, c'est comme quand on utilise la boue pour pousser des lotus. Et les pratiquants savent gérer leur souffrance. Et quand on sait gérer sa souffrance, on souffre beaucoup moins. Si on ne sait pas gérer sa souffrance, la souffrance est énorme. Mais si on sait comment faire, alors la souffrance est beaucoup moins. C'est très clair. Deux personnes se trouvent dans la même situation. Une personne souffre profondément et l'autre personne souffre beaucoup moins. On souffre beaucoup, c'est parce qu'on ne sait pas comment souffrir. Alors, premièrement, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas laisser la deuxième flèche nous frapper. C'est ce que le Bouddha nous a enseigné. Une personne est frappée par une flèche, elle a mal, mais si une deuxième flèche, frappe au même endroit, alors la douleur multiplie 10 fois par 10. Et la deuxième flèche est la colère, la résistance, l'irritation, l'imagination. Et tout ça amplifie la douleur, la souffrance. Quand nous avons une douleur physique ou une douleur mentale, il ne faut pas imaginer, il ne faut pas l'exagérer. Avec notre imagination, avec notre peur, nous croyons que nous avons un cancer et nous allons mourir, mais la vérité, c'est qu'on n'a pas de cancer, c'est juste une petite douleur. Et cette peur amplifie notre souffrance, c'est la deuxième flèche. Mais très calme, nous reconnaissons cette douleur telle qu'elle. Nous n'imaginons pas. Nous allons voir un maître pour qui va nous aider à reconnaître telle qu'elle. La colère, l'imagination multiplient notre souffrance 10 fois plus. Et deuxièmement, il faut être là pour reconnaître. Il ne faut pas fuir. Il faut être là pour gérer, pour embrasser. Si nous savons utiliser le lâcher-prise, la pleine conscience, la concentration et la vision profonde pour reconnaître et embrasser notre souffrance, alors nous souffrons beaucoup moins. L'autre personne peut souffrir 90% et nous souffrons beaucoup moins. Et c'est l'art de souffrir. D'un côté, c'est l'art de créer le bonheur et l'autre côté, c'est gérer la souffrance. Et nous pouvons aller encore plus loin, c'est-à-dire nous pouvons utiliser cette souffrance pour créer le bonheur. Parce qu'avec la souffrance, nous pouvons produire la compréhension et la compassion, comme avec la boue, on fait pousser les lotus. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'apprendre les sutras. 1h30 est passée. Nous aurons la marche méditative parce qu'il fait il fait bon, il ne pleut pas. Alors marchez de manière que vous ayez la joie et le bonheur à chaque pas que vous faites. Utilisez vos poumons, sachez utiliser vos yeux clairs, vos jambes qui sont encore fortes. Vous avez beaucoup de conditions de bonheur. Vous pouvez produire la joie, le bonheur et la paix avec chaque pas, chacun de vos pas. C'est à vous de décider. Il ne faut pas laisser votre corps du dharma s'affaiblir. Deux mois de la retraite d'hiver sont passés. Il ne reste plus qu'un mois. Il faut savoir profiter pleinement de notre retraite d'hiver. C'est pour ça qu'il faut apprendre et maîtriser parfaitement ces méthodes, ces pratiques, pour faire naître la joie, le bonheur, la paix, avec le lâcher prise, la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. Il faut apprendre à gérer notre souffrance avec également ces énergies de lâcher prise, de pleine conscience, de concentration et de vision profonde.